Il est 6h30 à Abidjan et Conakry. Bon réveil à vous à l'écoute d'RFI. 8h30 à Paris.
RFI Matin.
Et l'actualité africaine avec vous, Nemo Ampis. Bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Le soulagement en Guinée au lendemain de l'annonce de l'arrestation de Claude Pivi.
Il a été interpellé au Libéria, lui qui, le mois dernier, avait été condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009. Les dispositifs sécuritaires remis en question au Mali, deux jours désormais après la double attaque terroriste sur Bamako. Comment un groupe a-t-il pu mener de telles offensives sur des cibles militaires et au cœur de la capitale? Tentative d'explication à suivre. Dans son journal également, retour sur ce rapport de Human Rights Watch sur la présence terroriste au Burkina Faso. Selon l'ONG, la situation ne fait que s'aggraver depuis l'arrivée au pouvoir de la junte menée par Ibrahim Traoré. Et puis notre dossier du jour, à la découverte d'Akissi de Paris, nouvelle bande dessinée imaginée par l'ivoirienne Marguerite Aboué. Après des aventures dans son pays d'origine, c'est dans la capitale française que l'héroïne poursuit son chemin.
C'était l'homme le plus recherché de Guinée. Le colonel Claude Pivi a finalement été interpellé au Libéria.
Difficile pour le moment de connaître la date exacte ainsi que les conditions de son arrestation, mais l'information a bel et bien été confirmée. Claude Pivi, récemment condamné par contumace à perpétuité pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, une figure redoutée en Guinée. C'est donc un soulagement pour beaucoup qui demandent désormais son extradition. Correspondance de Mouktar Ba dans la capitale guinéenne.
Les associations des victimes et les défenseurs des droits humains n'attendent que le retour de l'officier afin qu'il purge sa peine en Guinée. Pour Asmaou Diallo, présidente de l'association des victimes du 28 septembre 2009, son arrestation est un soulagement.
Lorsque Pivi a quitté Conakry, ça a fait beaucoup d'inquiétude au niveau des victimes. Qu'est-ce qu'il va programmer pour revenir en force en Guinée? Là, on est vraiment très satisfait de cette nouvelle.
Figure redoutée, affublée du surnom Grand Co. L'homme à la large stature a marqué les esprits. Mamadou Samba Diallo, militant de la société civile, a retrouvé le sourire.
L'arrestation de Pivi, nous sommes très ravis parce qu'on avait trop subi. Nuit et jour, on ne dormait pas. Si ce n'est pas des rafales, c'est des attaques armées, pillage de boutiques, de magasins et de biens.
Pour certains, il n'y a aucun doute. Claude Pivi va purger sa peine en Guinée, dans la prison où il s'est échappé. Kelitigi Camara.
Entre le Libéria et la Guinée, il y a une coopération judiciaire qui est dans l'Interpol. Pivi même a été condamné par la justice guinéenne. Le peuple de Guinée demande l'extradition de M. Claude Pivi en Guinée.
Deux ans de procédure, coupable de crimes contre l'humanité, une peine à perpétuité. Reste désormais une question en suspens. Quand sera-t-il rendu aux autorités guinéennes? Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
Et parmi ceux qui demandent son extradition, le médecin Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition, il est notre invité ce matin sur RFI. Entretien à retrouver après ce journal au micro de Christophe Boisbouvier.
Au Mali, toujours pas de bilan officiel après la double attaque terroriste sur la capitale.
Une école de gendarmerie ainsi qu'une base militaire de l'aéroport international de Bamako ont en effet été cibles d'offensives revendiquées par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les autorités de transition reconnaissent jusqu'ici quelques pertes en vie humaine, quand d'autres sources sécuritaires ou civiles évoquent plusieurs dizaines de morts. Mais au-delà du nombre de victimes, c'est la capacité de ce groupe lié à Al-Qaïda à mener de telles attaques au cœur de Bamako et contre des cibles militaires qui interrogent sur la sécurisation de la capitale. David Baché.
Les assaillants ont fini par être neutralisés. On ignore toujours à quel prix humain. Mais le simple fait que le JNIM ait pu pénétrer dans des sites militaires en plein Bamako et mener des attaques d'une envergure inédite depuis presque 10 ans, met en lumière d'incontestables failles. La base militaire 101 à l'aéroport de Bamako, où se trouve également un camp de l'armée de l'air, est censée être l'un des endroits les plus sécurisés du pays. Outre les militaires maliens, des supplétifs de Wagner y sont présents. Niagale Bagayoko, présidente du réseau africain pour le secteur de la sécurité.
Pourra certainement être posé, puisque je ne doute pas que des enquêtes seront lancées, y compris au sein de l'armée malienne. La question de potentiel complicité. Se pose aussi, bien entendu, la question de la stratégie de déploiement actuelle des moyens militaires du Mali, qui, on le sait, sont très concentrés vers le nord du pays. Hein. Peut-être que les moyens de l'armée nationale ne permettent pas de sécuriser l'ensemble des sites.
Mardi, lors de la double attaque qui a frappé la capitale, le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, recevait une délégation de l'Alliance des États du Sahel, initialement conçue pour combattre de manière collective les groupes terroristes. Dans le communiqué final de la rencontre, aucune mention de ces attaques. Ni la présidence malienne, ni les États du Niger et du Burkina n'ont commenté depuis.
Explication signée David Baché.
Au Burkina Faso, voisin aussi, les groupes terroristes continuent de se déployer.
Et de plus en plus violemment, d'après un rapport publié hier par Human Rights Watch. L'ONG y détaille notamment les conditions de vie des populations touchées par le terrorisme dans ce pays où plus de 26 000 personnes en sont mortes depuis 2016, dont plus de 15 000 depuis le coup d'État survenu en septembre 2022. Hilaria Allegrozzi, chercheuse spécialiste du Sahel au sein de l'ONG, revient ce matin sur l'aggravation de la situation depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré et le recours régulier aux VDP, les volontaires pour la défense de la patrie.
Il est fort probable que 2024 soit la pire année en termes de morts civiles au Burkina Faso. Plus de la moitié ont été tués depuis que cette junte a pris le pouvoir. Les autorités militaires ont fait des VDP le principal pilier de leur réponse à l'insécurité. Je pense que la décision de s'appuyer sur les VDP est assez controversée car elle a contribué à placer les civils au centre des violences, avec des communautés qui ont été ciblées par les groupes islamistes armés pour avoir rejoint les VDP. Et d'une autre part aussi, elle a aggravé les tensions communautaires. Il n'y a pas assez de VDP recrutés au sein de certaines communautés qui sont souvent les plus discriminées et ciblées par les opérations de contre-terrorisme, qui sont considérées comme étant des collaborateurs ou des suspects terroristes.
Hilaria Allegrozzi, jointe par Weli Diallo. Sénégal, à présent, où une centaine de partis d'opposition s'alarment de l'absence de dialogue avec le ministère de l'Intérieur pour organiser les modalités des législatives fixées au 17 novembre prochain. Ces partis se sont donc réunis au sein de l'ATEL, l'Alliance pour la transparence des élections, qui appelle les autorités à organiser au plus vite des concertations pour garantir le consensus et la mise en place d'un scrutin transparent. À Dakar, la correspondance de Léa-Lisa Vesterov.
Parmi les sujets d'inquiétude, l'absence de rencontres programmées pour l'heure avec le ministère de l'Intérieur, alors que les législatives auront lieu dans moins de 2 mois. L'absence d'informations aussi sur les modalités spécifiques d'organisation du scrutin, exemple avec la suppression du système de parrainage citoyen pour cette élection qui n'a fait l'objet d'aucune annonce officielle. Oumar Youm est membre du secrétariat exécutif national de l'APR, signataire de l'Alliance pour la transparence des élections.
Pour que les élections puissent être jugées honnêtes et crédibles, il ne suffit pas simplement de prendre des décrets, il faut aussi associer les partis politiques, les candidats, les forces vives à une concertation sur les modalités de l'élection. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a absolument rien. Et c'est ça la préoccupation forte de la classe politique à travers cette coalition appelée ATEL, Alliance pour la transparence des élections.
La centaine de signataires appellent donc le ministère de l'Intérieur à convoquer au plus vite un dialogue pour communiquer et se mettre d'accord sur les modalités de ces législatives anticipées dans le respect de la tradition de consensus au Sénégal. Léa-Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, au Soudan, les deux belligérants se sont dit hier ouverts à des solutions pacifiques dans le but de mettre fin à la guerre qui dure désormais depuis le 15 avril 2023. Le chef de l'armée régulière, Abdel Fattah al-Burhan, a assuré que le gouvernement était ouvert à tout effort constructif, même son de cloche du côté du général Emmeti, le chef des paramilitaires FSR, qui réitère son engagement, dit-il, à participer à des négociations sur un cessez-le-feu. Pendant ce temps, des centaines de milliers de vies sont menacées par les combats dans la ville assiégée d'El Fasher au Soudan, prévient devant le Conseil de sécurité Martha Pobi, la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique.
En Côte d'Ivoire à présent, la fermeture à venir du bureau de la Cour pénale internationale.
Voilà 13 ans que le procureur de la CPI y enquête sur les violences commises lors des crises de 2002 et de 2010, des enquêtes qui avaient abouti entre autres au procès de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi de Charles Blé Goudé. Tous deux avaient été définitivement acquittés par la CPI en mars 2021. Jusqu'ici, le bureau en Côte d'Ivoire avait mené plusieurs activités de sensibilisation et jusqu'à sa fermeture, courant 2025. Les enquêtes se poursuivent, Binta Diagne.
Cette décision découle d'arbitrage budgétaire. En 2025, le fonds au profit des victimes achèvera son programme d'assistance qui a touché près de 8000 personnes, indique la Cour dans son projet de budget prévisionnel pour l'année prochaine. Compte tenu de l'examen stratégique de certaines situations menées par le greffe, l'appui opérationnel limité requis ne justifie plus qu'une présence soit maintenue sur le terrain à Abidjan, lit-on dans ce document. Le greffe compte donc supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année 2025, fin de citation. Si le bureau de la CPI estime qu'il a fini sa mission ici et qu'il doit fermer, nous ne pouvons que nous en réjouir, affirme Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement. Cela montre bien, souligne-t-il, que nos juridictions nationales marchent bien et ont pris la place. Le procureur de la CPI poursuit ses enquêtes concernant les violences survenues lors des crises de 2002 et de 2010. Malgré cela, plusieurs associations de victimes restent perplexes. Qui a bien pu tuer les 3000 victimes de la crise de 2010 s'interroge Drissa Bamba, le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme. Ce responsable craint la clôture prochaine de l'enquête menée par la CPI. Sur la même lancée, Willy Net, le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, déplore le manque de communication et de pédagogie de la Cour vis-à-vis des victimes. Binta Diagne, Abidjan. RFI.
Et pour le dossier de cette édition, Nemo, on reste en Côte d'Ivoire.
Oui, on connaissait Aya de Yopougon, l'héroïne créée par Marguerite Aboué, sa version enfantine également Akissi, imaginée par l'autrice ivoirienne d'après ses souvenirs d'enfance à Abidjan. Et ce matin, on vous fait découvrir Akissi de Paris avec son comparse, le dessinateur Mathieu Sapin. Marguerite Aboué vient de faire paraître le premier tome d'une série dérivée de l'univers d'Akissi qui cette fois enchaîne les aventures dans la capitale française. Sophie Torlotin.
Akissi et son frère Fofana sont envoyés par leurs parents faire leurs études en France. Installés chez leur grand-oncle, ils découvrent à leur déplaisir le climat parisien. À 12 ans, Akissi fait son entrée au collège et a du mal à s'intégrer dans la cour de récréation dont elle ne maîtrise pas les codes. La préadolescente, énergique et sympathique, découvre qu'il y a les élèves populaires, que l'on appelle les beaux gosses, et les souffre-douleurs, surnommés les bolosses, comme Marcel, alias Dictionnaire. Comme lui, la jeune abidjanaise, initiée par son papy excentrique et humaniste, va faire de la bibliothèque sa deuxième maison. Akissi sympathise avec un sans-domicile fixe et s'étonne qu'en France, des personnes dorment dans la rue. Elle découvre aussi que dans la capitale française, les voisins ne se connaissent guère et se saluent à peine. Pour ce premier album d'une nouvelle série, Marguerite Aboué s'est inspirée de ses propres souvenirs d'adolescente en plein choc culturel, mais elle les met au goût du jour, équipant les élèves de smartphones et glissant des expressions modernes. Marguerite Aboué et Mathieu Sapin accompagnent Akissi dans son évolution, mais ne perdent pas au passage la verve et l'attention aux détails qui rendent la série attachante et sincère.
Il faut donc désormais dire Akissi de Paris. Pour autant, en lançant cette nouvelle série, les auteurs ne mettent pas fin à la série originelle. Marguerite Aboué continuera de raconter les bêtises d'Akissi et de ses amis à Abidjan.
J'ai quand même des petits lecteurs qui sont tellement accrochés à cette héroïne et j'ai peur qu'ils ne suivent pas en fait Akissi, la préado. Donc on va continuer et puis comme je demande à chaque enfant que je rencontre de me raconter ses bêtises, je pense qu'il y a de quoi faire.
Et est-ce qu'il y a des nouvelles aventures sur petit ou grand écran ?
Bah, il y a une série Akissi en préparation. Là, on est encore au tout début, mais ça y est, tout est signé et je suis assez fière de ça parce que je crois qu'elle mérite. Elle mérite sa série, Akissi.
Marguerite Aboué au micro de Sophie Torlotin. L'autrice est également l'invitée culture de RFI ce jeudi matin. Et puisqu'on parle culture, ne ratez pas ce soir, 22h10, heure de Paris, le concert de Youssou N'Dour, enregistré cet été à la Station Afrique. Un show que vous fait revivre Claude Issiard en intégralité. Rendez-vous donc à 20h10, temps universel, Nathalie.
Merci Nemo Ampis et vous revenez à 9h30 pour une nouvelle édition du journal.